Yes, I heard when you die after burial, you have to come back as an insect or animal. Yes, I heard when you die after burial, you have to come back as an insect or animal. Well, if this so, I don't want to be a monkey.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, et bienvenue, oui bienvenue dans votre nouvelle édition du podcast le plus en avance sur son temps à la mi-chemin entre expérience audiovisuelle et talk show polémique, n'hésitant pas à déborder sur les sujets les plus préoccupants de l'époque. Et ce soir, non, je ne suis pas seul, puisque je suis accompagné de celui qui m'a fait bugger quand je l'ai vu pour la première fois. Celui qui allie coup de crayon et coup de pression, modernisme et vue arriérée, le technicien du quartier, j'ai nommé Gaspard. Bonsoir Gaspard.
Bonsoir Raphaël.
Et ce, avec nous ce soir, puisque nous ne sommes pas seuls, elle est de retour dans l'émission éponyme, elle porte son nom. Après un repos bien mérité, pour nous parler à nouveau d'un sujet qu'elle adore évidemment, elle manie le verbe comme les couleurs de sa palette pastel, elle nous guide dans un monde lugubre et absurde, elle traque les banquettes dans la bande à Bilel, j'ai nommé Manon. Bonsoir Manon.
Bonsoir.
Et ce soir, bah, les enfants, nous parlons de Bug, du premier tome de Bug de Enki Bilal. Et oui.
Et oui, Enki Bilal Hassani.
Enki Bilal Hassani, j'ai pu la refaire. Enki la bande à Bilal. On les a. Voilà, ouais, maintenant qu'elles sont évacuées, on peut peut-être parler de.
Allez, go. On y va. Bon.
Allez, Enki Bilal, donc il est né le 7 octobre 1951 à Belgrade. C'est un réalisateur, dessinateur et scénariste de bande dessinée français. Il est d'origine.
Belgrade.
Non, il est d'origine yougoslave et tchèque, comme moi.
Ouais. Exactement. Yougoslave et tchèque.
Non, ça va, je suis tchèque, c'est bon.
Ouais, voilà, c'est bien ce que je pense.
Ton père, il a bossé pour un dictateur ou pas?
Non, son grand-père.
Peut-être que oui, t'en sais rien.
Son père à lui, oui.
Ouais. Alors, son grand-père qui a bossé, qui était costumier pour Tito. Voilà.
Il faisait toutes les soirées costumées de Tito.
C'est ça. Il lui a fait un super costume de Casimir.
Et de Winnie l'ourson, ouais.
Voici venu le temps du gaz dans les champs. Des gens sont tendus.
Putain.
Et il se lance direct dans la BD, en fait, c'est son premier travail. Hein. Il gagne un concours de BD de pilote en 1971 et il entre également aux Beaux-Arts la même année quand il publie sa première histoire qui s'appelle Le bol maudit.
Alors, où est-ce que je mets des céréales ? Non !
Son bol avec son nom, c'est le truc breton.
Tu mourras, Guirec.
Il sort donc en 72 chez Pilote également, qui était un magazine de l'époque, hein, au même titre que Spirou. Spirou, Pilote, voilà. Tous ces magazines qui ont fait leur temps. Il est notamment connu pour sa trilogie Nicopole.
Nicopole.
Ouais, entre les dates. Tu les as, toi, peut-être ?
Non, il y a 82 dans l'histoire, mais après, j'ai vu.
Ça commence en 80, ça se termine en 93.
Ah, tu vois, je sais pas.
T'es pas loin, franchement.
T'es pas à quête, hein.
Qui mêle SF, donc science-fiction.
SM. MF. RET. TB. JK. Et BW.
Ouais. Et PKK.
Et PKK.
Mouvement de libération des peuples kurdes. Poésie et dieu égyptien.
Oui.
Ça fait beaucoup, hein.
Oui.
Surtout avec les Kurdes et les.
Après, moi, j'ai toujours aimé le mélange des genres, donc je trouve ça assez agréable. Comment on passe d'un parti à l'autre.
C'est un peu osé quand même. Hein. Il y développe notamment le chess boxing. Alors, est-ce que vous avez entendu parler de ça? Sans déconner,
non,
je vous
fais
pas de votre gueule.
Ah, moi, je vais le dire tout de suite, c'est la première BD de Enki Bilal que j'ai lue, donc faut pas me tester sur ça.
Alors, le chess boxing, donc, il développe ça dans sa trilogie Nicopole comme étant un passe-temps, un hobby dans la BD. Sauf que t'as un mec qui a tellement kiffé l'idée, donc c'est chess, les échecs et boxing, la boxe, qu'il en a fait un concours international. Donc t'as littéralement des mecs, non, je rigole, mais vraiment pas du tout pour le coup. T'as des championnats qui existent depuis les années 2000, t'en as eu un en 2008 notamment, où t'as des mecs.
Et ils se battent en jouant aux échecs.
Alors, non, c'est-à-dire
comment ça se passe.
Ils font 4 rounds de boxe.
Ouais. Ils jouent aux échecs.
Ensuite ils font des échecs.
Ensuite
ils retournent sur le.
Attends, j'ai cru que t'allais me dire ils se tapaient dessus sur les échecs comme dans Harry Potter, mais non, clairement pas.
Moi j'imaginais ça, genre en gros le fou contre la reine et pas fini.
Il faut une partie d'échecs, il commence, ensuite au bout d'un certain temps ça coupe, donc la partie est interrompue, il monte sur le ring, il se fout sur la gueule pendant 3-4 rounds et il retourne.
Mais c'est hyper chelou.
C'est hyper drôle, non?
C'est un peu comme mes guitares peintures.
Oui, exactement, guitare couture.
Guitare couture, voilà. Pardon.
Non, mais c'est exactement ça, et c'est un vrai truc avec un vrai championnat.
Et bah, décidément, on en apprend tous les jours.
Je vous invite à aller regarder ça sur internet, c'est assez rigolo, t'as 2-3 vidéos. C'est assez marrant de voir surtout les mecs qui viennent de se prendre un uppercut, mais du siècle, qui essayent de pas vomir sur le plateau d'échecs.
De pas vomir sur le petit chrono, là.
Ouais, c'est ça. Ouais, en plus, ça joue au blitz aux échecs, enfin bref, c'est compliqué quoi. En 87, il obtient le prix qui lui permet d'être ici ce soir en fait.
Ah, il a eu le prix à Angoulême ?
Eh oui, il a eu le grand prix, voilà. Eh ben sans ça, il serait pas là, très clairement.
Je me disais aussi, j'ai eu peur, hein, j'ai cru que t'allais me faire lire un nullar.
Oh non.
Ah, c'est bon, s'il a eu le prix, alors ça va.
Mais Enki Bilal, c'est pas que la BD, puisqu'il s'intéresse également au cinéma.
À l'Eurovision aussi.
À l'Eurovision.
À l'Eurovision.
Ah, ça, je savais pas.
Bah oui, et il a concouru cette année.
Ah, putain.
Pas mal. Pas mal, il a fait marcher assez longtemps. Donc, en 82, il dessine une partie des décors de La vie est un roman d'Alain René. Mm. Il design des créatures pour La forteresse noire de Michael Mann. Il fait des recherches graphiques pour Le nom de la rose, quand même. Ça déconne pas, le film de Jean-Jacques Hano. Et il fait les décors de
Roméo
et Juliette.
J'ai une petite pensée pour Cécile qui disait que cette émission, c'était pas que du Wikipédia.
Et bah, c'est pas que du Wikipédia.
Je crois que cet épisode sera pas trop Wikipédia finalement.
Et dédicace à tous ceux qui mettent des commentaires
et qui sont grave vénères.
Voilà, nous on fait pas du Wikipédia.
Non, mais moi,
c'est des infos qu'on a obtenues en interrogeant Enki Bilal lui-même finalement. C'est à l'esprit
juste après qu'il ait chanté roi.
Voilà. il était en descendant de scène.
Exactement.
Il était super content de sa performance.
Bon.
Le jury un peu moins. En 2019, il est membre du jury à Cannes.
De Cannes.
Oui, c'est vrai.
En direction de
Alejandro González Iñárritu. Et il a remis la Palme d'Or à Parasite.
Exactement.
Qui est un film extraordinaire.
Mais Parasite. Qui est trop bien. Eh oui. Est-ce qu'on peut pas faire un podcast sur Parasite?
Bah, ça dépend. On peut improviser maintenant, hein, mais.
Après, on va dériver. Moi, je suis méga chaud.
On a déjà fait un film de Bong Joon-ho dans cette émission. Donc, on vous renvoie à notre épisode sur The Host.
Exactement.
Qui est sorti il y a un an et demi, notre épisode, dans lequel on disait déjà que ce mec était le plus grand cinéaste du monde.
Non, mais je suis méga chaude qu'on parle de Parasite une fois.
Parasite est extraordinaire, mais on en parlera peut-être une autre fois, puisque ce soir, on parle de Bug. Donc, premier tome sorti en 2017. Mm-hmm. Qu'est-ce que vous en avez pensé, messieurs, dames? Je commence par Manon. Ça va, Manon?
Alors,
t'es contente de revenir?
Ouais, je suis grave contente.
On est contente de t'avoir, nous.
Je suis très, très contente.
Les auditeurs aussi t'ont réclamé, tu sais.
Ah, bah, ça me fait plaisir. Ouais.
Il y aura des courriers du cœur pour toi cette année.
Ah,
les impôts aussi t'ont réclamé.
Ouais, je sais,
taxe d'habitation. Paris, il vous reste deux semaines. Hein.
Il te cherche vraiment.
J'ai déjà payé ma taxe d'habitation.
Moi, je ne l'ai pas encore payé. Parce que
bravo.
J'ai pas les fonds. Ouais.
Non, je suis grave contente de revenir. Surtout sur ce sujet que j'ai gentiment suggéré. Hein. Non,
soit ça, soit le califat. Donc, on n'a pas vraiment.
Bah, écoute,
on va en parler du califat d'air.
Non, je l'ai suggéré étonnamment. Ça surprendra tout le monde parce que c'est un souvenir d'enfance. Voilà.
On avait cru comprendre qu'en fait ce podcast c'était une thérapie pour toi, hein, très
tout
clairement.
À fait, tout à fait. Et
tu
donc je parle
de la relation à tes parents.
Et ben bah, effectivement,
aller, hein.
J'allais embrayer moi, sur.
Ce sera mon oncle.
L'œuvre? Non, mon oncle. Ah ok.
Non mais tu
les
déconnes.
Après-midi chez tonton.
C'est ça.
J'allais embrayer sur ma mère.
Ah.
Merci maman, puisque.
Les genoux étaient plus tendres que ceux de tonton.
Non putain. Non mais c'est parce que c'est grâce à ma mère que je connais Bilal. Parce que la trilogie Nicopol.
Mais alors, il était comment avant de mettre des perruques?
Ah bah, va savoir, putain.
Pardon, donc t'aimais bien ça? Excuse-moi.
Non, il y avait plein d'albums de Bilal qui traînaient, qui faisaient partie de la bibliothèque de ma mère quand j'étais petite, dont la trilogie Nicopol, que je n'ai d'ailleurs jamais lue, mais que j'ai feuilleté étant petite et que j'aimais beaucoup. Et
alors,
depuis, je me suis mise à lire.
Ça t'a pas terrifiée quand t'étais petite?
Non, j'étais genre fascinée.
Ah ouais?
Ouais. Mais parce que j'adorais les dessins de Bilal, enfin je trouvais ça génial la façon dont il dessinait, je m'en foutais de lire les histoires, genre les dessins étaient dingues.
Ah, les dessins
c'est pour ça que t'as fini Thanatopractice en même temps.
Mm-hmm.
C'est ça, hein. Ça a pas l'air d'aller depuis. Parce que alors, bah, excuse-moi, je vais être un peu impoli avec toi Gaspard, je vais dire tout simplement ce que moi j'en ai pensé.
Oh bah sois impoli.
Parce qu'en fait moi aussi c'est un souvenir d'enfance Enki Bilal, puisque mes grands-parents avaient une bibliothèque assez fournie en bande dessinée, ils avaient des Enki Bilal, et j'étais terrifié.
Mais par quoi?
Mais parce que je trouve que c'est hyper flippant la façon dont il dessine. Alors aujourd'hui, je vois l'intérêt.
T'étais
graphique.
Pas fasciné par la façon dont il dessine les ouzes?
Justement, j'étais pas du tout fasciné. Je trouvais ça moche à l'époque.
Ah ouais?
Ouais, aujourd'hui, je trouve que c'est beau.
Ouais.
Mais je trouvais ça très bizarre et ça m'a terrifié. Genre, en fait, en plus, la trilogie Nicopol, t'as des trucs avec des cauchemars et tout ça, où il voit des.
Ah ouais, c'est spécial comme ambiance.
Ouais,
genre,
qui vient le faire chier et tout. Et
mais ça,
c'est
moi, c'est un
quoi.
Truc que je partage aussi de nouveau. Maman. Coucou maman.
T'es terrifié par Anubis qui
non,
va
mais
me voir
tout
dans ses cauchemars.
Non, trop pas, justement, mais tous les délires égyptiens, c'est trop notre délire, moi j'adorais. Mais alors par contre, oui, j'avais très peur de la momie que j'avais vue au Louvre 1500 fois et que j'étais persuadée qu'elle était sous mon lit.
Petite dédicace pour le film Belphégor.
Vraiment.
C'est cadeau.
Mais tout ce qui avait attrait à l'Égypte, ça me passionnait aussi. Donc forcément, genre, l'univers de Bilal, je trouvais ça génial.
Et c'est pour ça que tu es devenu égyptologue. Gaspard,
tout
toi, qu'est-ce que t'en as pensé finalement?
Bah écoutez, moi, comme je disais, c'est la première BD que je lisais de Enki Bilal.
Une BD tout court?
Oui, alors c'est un format assez bizarre. Hein. Ça tient pas dans la poche, j'ai bossé. Mais
pourtant
je comprends pas, j'ai essayé de le faire rentrer, ça marche pas.
Dis donc, t'as un gros cartable aujourd'hui hein, quand même. Hein.
Non, mais c'est la première BD que je disais de lui. Alors, il y a deux trucs, on aura l'occasion de revenir dessus. Je trouve ça, déjà sur le dessin, je trouve ça absolument magnifique. Vraiment. Et en plus, je trouve que c'est bien, c'est qu'il cherche pas à faire comme d'autres BD. Là, on pourra pas dire que c'est de la ligne claire, parce qu'il laisse vraiment tous ses traits dégueulasses. Parfois, on sent le coup de crayon et c'est assez beau. Après, je trouve ça très marrant parce que c'est très cynique sur certains trucs. Après, c'est un peu We Live in a Society, les gars.
C'est un peu vieux con, quoi.
C'est un, et c'est, ouais. Au début, je pensais qu'il était un peu ironique. Puis après, de plus en plus, je lisais le truc comme disant en fait, c'est peut-être juste un vieux con, quoi.
C'est un vieux.
Et vraiment, en fait, je crois que quand on arrive, on arrivera à ce passage-là, mais quand il dit qu'il y a que les gens avant 80 qui valent le coup,
ouais.
Je sais pas si on est sur la vanne ou sur
bah,
le vieux con. Mais non, dans l'ensemble, c'est une belle découverte. Ça attise ma curiosité.
Moi, graphiquement, Enki Bilal, je suis pas du tout fan, pour le coup. C'est pas un truc qui m'a accroché, mais avec Bug, en fait, en accrochant à l'histoire, tu vois, j'ai un peu découvert et je me suis fait hostile.
T'es ouvert des portes.
Ouais, mais de prime abord, moi, je trouve que c'est pas. En fait, je trouve que c'est pas très beau.
Ah ouais?
Ouais. Mais c'est justement.
C'est parce que c'est froid?
Ouais, déjà. Mais alors, j'irai pas jusqu'à faire l'analyse. Disons que c'est parce qu'il a vécu en Yougoslavie que.
C'est parce qu'il est slave.
Et gris. Mais voilà. Donc, c'était intéressant pour moi, en tout cas, le lien. L'histoire, assez sympa. Il y en aura 5 tomes. Il y a le 2 qui est sorti en début d'année 2019.
Ouais.
Donc, on verra ce que ça donne. Mais, on vous parle de ça. Vous savez même pas quelle est l'histoire. On propose tout de suite de passer un petit résumé de l'histoire. Et on ouvre l'histoire de Bug sur un bug, et bah oui, un bug généralisé qui paralyse la Terre.
Toulou,
toulou,
toulou, toulou, toulou. La base virale VPS a été mise à jour.
Non, ça fait le bruit de la connexion 56K pendant...
Qui est ton téléphone, merde.
Et du coup, on se rend compte que, et bien en fait, tout ce qui est numérique hein, sur la Terre a disparu. Toutes les données sont effacées, les connexions, ça marche.
Il n'y a plus rien.
Et on se réveille.
C'est
un
le bordel.
Peu. C'est un peu le bordel. C'est un petit peu une Terre qui est...
On est sur ce qu'on appelle un high concept.
Exactement. On est un petit peu sur de la...
Et on va pas dire que c'est pas un peu lourdeau la manière dont c'est traité, quoi.
Non. On viendra à ça après, Gaspard, s'il te plaît. Non, mais on est donc clairement dans la SF, c'est-à-dire que là, on sait qu'on va traiter un petit peu... Tu vois, ces premières pages, c'est un peu la force des mecs qui font des BD depuis un petit bout de temps, c'est-à-dire que première page, tu sais de quoi on va parler, quoi.
Bah, en même temps, bon.
Ah, c'est la page où il y a le titre.
C'est un bug informatique, là.
Ouais, mais bug, ça veut dire plein de choses. Ça veut dire bug informatique. En anglais, ça veut dire bestiole. Ouais. On peut faire un petit parallèle avec quelque chose dans l'histoire.
Alors, le premier titre qu'il avait, c'est « Je n'ai pas su faire marcher la machine, là ».
À l'envers, ça veut dire « gub », ce qui ne veut rien dire.
Mais si tu prononces allemand, « goup », ça ne veut rien dire non plus.
Et
c'est là qu'on voit que les Allemands sont là-dedans. Ah, ça va être une histoire qui parle de nazis. J'adore. J'adore ça. Donc ce soir, on vous parle de la liste de Schindler en fait. Et donc en parallèle de ce bug qui se déroule, tu as des astronautes hein, qui débarquent sur un vaisseau. Alors on comprend que ce vaisseau, il était en mission, il est allé sur Mars. Hein. Donc ils débarquent dans ce vaisseau et tout le monde à bord de ce vaisseau qui revient de Mars est mort, sauf
Hobb. Oh bébé.
Oh bébé.
Ah bébé.
Oh bébé. Comme le son de BNL. Ouais, oh bébé.
Non mais Adema, si ça va pas, on la refait demain la prise.
Non, un peu aujourd'hui, je te dis. Oh bébé. Oh.
Non, mais c'est pas possible. On la refait demain parce que là, c'est.
Oh, oui, mais...
Tout le passager sont morts, à part Hobb. Et donc, les deux astronautes vont le ramener à bord de la station spatiale International. Ok, alors,
est-ce que
Manon, t'as l'air.
Est-ce que vous êtes comme moi? Parce que moi, quand j'ai vu ce nom, K-Hobb, c'est quoi son prénom?
Cameron.
J'ai cherché le jeu de mots. Mais pendant 90 pages, j'ai cherché le jeu. Je suis sûr qu'il y en a un quelque part.
Kaob.
Cobb.
Cobb.
Kobe.
Kobe. Yes.
3 points, Kobe. Yeah,
Kobe.
Non, mais...
Oui.
Tous les noms dans cette BD, tu sens la contrepétrie cachée quelque part.
Ah, moi, ça n'a pas marqué de ouf à tel point que j'ai oublié tous les noms.
Moi, j'ai senti l'Est. T'as genre...
Ah ouais.
Je m'appelle Jibra Kobil. Jibra Korskovic.
Oh, bah ça t'a fait penser à un truc de l'Est ?
Ouais, je sais pas. Non, mais j'ai pas envie de me battre avec toi ce soir, donc on va pas parler de l'Est en fait. Mais du coup, il le ramène à bord et.
Allez, go !
Comme dans Bienvenue à bord avec Franck Dubosc.
Exactement. Et ils vont faire une petite observation médicale sur lui. On se rend
compte. Comme dans Bienvenue à bord avec Franck Dubosc.
Donc, qu'est-ce qu'ils aperçoivent sur son cou ?
Une tache bleue.
Alors, non, ça c'est sur son visage, sur son cou.
Une blessure.
Un Une blessure. Qu'il a rien fait hier soir.
Menteur.
Une blessure.
Ah, il a une blessure.
Et la main.
Il a un trou dans le cou.
Ils ont un trou un peu à la Matrix. Ouais. Tu sais, quand ils ont eux dans la nuque, bah, il a un peu la même chose, lui, sur le côté latéral.
Mais mal visé. Là, c'est comme si la machine de Matrix l'avait mal pris. Que
oh merde!
Si c'était retourné au moment où
il s'est chié dessus.
Vous êtes sûr que ça va pas faire mal? Ah, voilà!
Qui part trop en couille, tu sais. Et du coup,
c'est
donc...
le seul dans Matrix qui est obligé de se mettre sur le côté quand on les branche. Genre, tout le monde se met de la même manière. Et lui, il est obligé de se mettre de trois quarts. C'est une horreur.
Ah, mais je suis pas bien dans le fauteuil là, je comprends pas ce que j'ai.
Morpheus! Oh merde!
Tu sais, il apparaît de travers dans la tête, il fait qu'est-ce que c'est, mais qu'est-ce qu'elle a ta gueule là?
Il se bat comme un crabe dans, dans la matrice, il peut aller que sur le côté.
I know kung fu. Et donc, après avoir révélé ce petit problème, c'est en plus de cette tache bleue là qui commence à s'épandre sur son visage, on se rend compte que, eh ben, en fait, si la Terre a oublié et les matériels informatiques ont un peu oublié tout, eh ben, Hobb, lui, il semble savoir tout. Mm. C'est-à-dire qu'on lui dit.
Hobb est la mémoire du monde.
Mais ouais, en gros, c'est ça. C'est-à-dire que, tu vois, il y a des astronautes qui le font merde, on n'arrive pas à redémarrer
la
navette, comment on fait? Et Hobb, il fait taper le code et il balance un truc du genre qui est plus compliqué que la clé VPA de ta box Wi-Fi. Donc c'est quand même
une clé USB vivante quoi.
Ouais. Et
un disque dur en
c'est un petit peu le disque dur de l'humanité comme tu l'as très justement fait. Souligné. Et en parallèle, on a un petit peu le chaos qui se déroule dans le monde, c'est qu'est-ce qui se passe, c'est quoi les situations?
Ah bah c'est un peu le chaos dans le monde.
Alors
on voit différemment, on voit Londres qui est complètement détruit. Alors le truc qui est assez drôle, c'est là où ça devient un peu rigolo, je trouve, et un peu cynique, c'est qu'ils commencent à abuser, mais genre de manière ridicule, mais c'est ça qui est drôle, d'acronymes.
Ouais.
En disant, il y a le RBB qui s'est engagé contre le PTTTG, contre le QG, et à chaque fois, il
les
met entre
PTT parenthèses se soulèvent.
Ce que ça veut dire, et en fait, tu comprends que le monde entier est en train de partir en guerre, à chaque fois dans des mini-groupes, dans telle ville, dans tel truc. En gros, le monde entier est en mode World War Z. Alors, il y a Londres, ils nous montrent que ça pète, que les gens font des. À un moment, il y a un truc très drôle, c'est quoi? C'est les braquages de banques libres.
Ouais.
Genre, en fait, on rend l'argent.
Oui, c'est ça. Alors. C'est...
À Fillon, mais en fait à tout le monde. Il y a un autre truc aussi, c'est qu'on voit à Manhattan un milliardaire qui s'est fait dénumériser.
En fait, on comprend qu'il a une espèce de c'est pour les très très riches, quelques personnes ça, qui lui permet de l'éviter, de voler une espèce d'implant. Et qu'en fait, cet implant est
comme
bloqué.
Ils ont
bugué
aussi.
Donc... Il arrive pas à descendre.
Ça, il faut le comprendre parce que, c'est, en fait, je me permets à nouveau de refaire un saut dans l'histoire, c'est que c'est bourré d'ellipses.
Ouais.
Et alors, si tu fais pas le lien entre la case A et la case B en mode genre, ah, en fait, on vient de sauter...
Et la case B
on vient de sauter d'un truc à l'autre.
T'as vraiment de la chance, je suis bon public. Hein.
Tu comprends pas ce qui se passe, en fait. Et... En même temps, c'est très agréable parce que, et c'est à nouveau, je monopolise la parole.
Mais vas-y donc,
je trouve que c'est une des grandes qualités de la BD, de cette BD-ci, pardon. Ce que je veux dire, c'est qu'il en a rien à foutre des formats et genre, il éclate puissance 15.
C'est-à-dire que d'un coup, il parle de ce qu'il veut, quoi.
Non, et puis surtout, d'un coup, il décide de mettre un carton ici pour expliquer tel truc. Tel truc, ça veut dire on est dans la tête d'un tel.
Et tel autre truc, il n'explique pas.
Oui, et puis voilà.
Bah oui, il laisse planer le doute sur plein de trucs.
Il va vraiment mettre un carton, mais écrit en police Futura d'un coup.
Ouais.
Ça veut dire telle personne et telle personne. Et puis d'un coup, il y a des trucs où il nous explique rien.
Il fait des flèches, c'est-à-dire t'as des dessins avec des personnages.
C'est
ça, il tire un trait en mode alors lui, c'est le président.
Exactement.
Voilà, donc maintenant, tu
alors le truc qui est très drôle, c'est qu'on voit le président turc qui est meilleur copain que le président kurde.
Oui. Et puis clairement, c'est Erdogan. Mais il avait décidé déjà.
Mais après, exactement, il te fait ce genre de truc très précis, et puis d'un coup, hop, alors, il te zappe des années, ou alors plein d'explications, et c'est à toi de faire le lien.
Mais c'est à toi de faire marcher ton imagination.
C'est ça qui est intéressant dans la SF de Bilal, de manière générale, c'est qu'il est... il y a des trucs qu'il explique parce qu'il a envie, tu vois, genre ça le fait marrer. Le chess boxing, je sais que pour le coup, il l'avait expliqué dans ses BD. Mm. Il avait passé du temps dessus. Il y a d'autres trucs, mais pas du tout. C'est-à-dire qu'il te parle tout le temps de mafia dans cette BD.
Ouais.
Et donc là, l'histoire se passe en 2041. Donc tu supposes qu'en 2041, t'as de la mafia partout. T'as une mafia vénitienne qui va prendre en otage sa fille. On verra un petit peu après. Enfin, t'as tout tourne autour de ça. Enfin, t'as des trucs qu'il a pas envie d'expliquer.
Oui,
c'est le monde
parfois,
tel que lui, il le voit.
Mais en même temps, c'est aussi pour que chacun puisse se projeter tout seul un peu dans l'histoire, tu vois.
Exactement, mais c'est pas faux.
C'est un peu comme sa façon de dessiner. Et on est en 2041 et il dessine le monde un peu comme aujourd'hui pour qu'on puisse le projeter.
Avec,
tu vois.
Avec des trucs.
On n'est pas sur un monde représenté de manière hyper futuriste.
Non, mais ça, en revanche, il y a une très belle qualité. C'est que malgré le fait qu'il parle que de trucs technologiques constamment, en fait, il dessine que les bâtiments.
Ouais,
en fait, la technologie.
Il dessine l'architecture vachement
bien. En fait. Il fait rien de numérique.
Non, il représente pas le truc futuriste.
Alors
tu vois ce que je veux dire.
On ne parle que de
alors
ça. On parle que de disque dur, de clé USB et compagnie, il le dessine jamais.
Par contre,
mais
par exemple,
après,
par exemple,
fait, excuse-moi, ça fait un peu trop. Je le pose parce que je l'ai dit, quoi. Mm. En gros, il y a des mafieux dangereux.
Ouais, mais c'est
juste posé, c'est un peu ridicule.
Il t'invite dans son monde, tu vois. Enfin, c'est un peu ça. Il t'invite et. Bah, par exemple, tu vois.
Je refuse.
On n'a pas vu le mur de Donald après cette observation médicale et en fait, on voit que c'est le bordel hein, dans ce monde avec les nations qui se. Tu vois, t'as des moments un petit peu rigolos, t'as genre le leader nord-coréen qui veut envoyer ses missiles.
Putain, merde, les gars, ça déconne.
T'as son conseiller qui vient le faire en mode c'est le moment, on va bien les niquer et tout. Et
go,
le mec,
go, go.
Ouais, du coup, vous avez le code. Bah ouais, il est dans le coffre.
Bah ouais,
t'as le code du coffre. Bah ouais, dans le coffre numérique, quoi.
Ah. Non, le mieux, c'est que le dirigeant, il se rend pas compte qu'il est en train de dire une grosse connerie.
Ouais.
Il fait, bah évidemment, c'est dans le coffre numérique. Ouais. Bande de cons.
Ah, et donc bon, t'as tous ces petits moments-là.
Mais c'est là où je comprends pas, en fait.
Vas-y, dis-moi.
Parce que. Il dit que toutes les données ont été effacées. Il n'y a plus de web, il n'y a plus de rien. Mm. Pourtant, il y a encore la télé.
Oui, parce qu'en fait, c'est des ondes hertziennes. C'est pour ça qu'au début, ils retransmettent avec des ondes
hertziennes. Pourquoi le coffre numérique ne marche pas?
Mais parce qu'en fait, c'est
si la télé fonctionne.
Et parce qu'il fait une
parce
différence
que
entre les deux.
Parce que t'es en 2041, tu sais, il y a des liaisons qui ne sont pas faites comme aujourd'hui.
C'est
quoi.
Des ondes radio. Mm. Ah bah tiens, et pan. Allez hop.
Mm-hmm. Bam.
Mais pourquoi la télé, elle marche?
Mais je sais pas. Pourquoi la télé a marché en 40 et t'avais pas Facebook?
Mais il y avait l'électricité. Du coup, pourquoi le coffre numérique n'existe pas s'il y a
pas C'est pas la même chose. C'est le numérique qui marche pas.
C'est la faute du cloud.
C'est la faute du
cloud. Voilà, c'est le cloud qui a déconné.
Ton cloud, Lou, je comprends pas comment ça marche. Tu peux pas me remettre l'internet comme c'était avant. Et quand tu utilises ta PlayStation, après, tu me remets le bon canal. Hein. Moi, j'y comprends rien.
Depuis que t'as touché, ça marche plus.
Depuis que t'as touché, ça marche plus. J'arrive plus à voir Cyril Hanouna. Oh, baba. Et ça termine ce petit chapitre sur une autopsie de la larve qui, en fait, la blessure qu'il avait au cou, c'était une larve introduite dans son cou. On découvre que cette larve, c'est un petit peu
et
un mélange.
En fait, on est dans un préquel de Mille et une pattes.
Exactement. Et après, tous les cinq tomes qui restent se concentrent
sur
les... C'est quand même ça qui est formidable.
Tout à fait.
Et en fait, on se rend compte que...
999 pattes, 1000 pattes,
mille et une pattes. Bravo. C'est très difficile de marcher quand t'as 1000 et une pattes. Il t'en manquerait 1002
pattes
à 1000 pattes.
À 1000 et une pattes.
Et du coup, on comprend que Hob a été infecté par une larve qui vient de Mars. Que Hob était en fait la personne la plus importante, parce que maintenant c'est lui qui a tout dans la tête là.
C'est le
tout.
Héros.
C'est le héros. Et ben ça devient un petit peu une course entre les nations pour qui va être le premier à récupérer Hob. Et alors entre les nations et avec Life Dust. A new brand of
j'ai l'application sur mon téléphone. C'est Dyson. J'imagine une BD où dans le futur c'est
Dyson qui domine,
qui contrôle le monde.
Grâce à notre technologie aspiratrice, nous aurons aspiré la concurrence.
Et toutes les données de toute la Terre.
C'est ça. Nous sommes désormais les premiers.
Puisque nous sommes dans toutes les toilettes de tous les bars du monde.
Et dans tous vos placards pour aspirer c'est vos salons.
Et donc Hob est poursuivi. T'as les nations qui se fouchent, la Chine, les États-Unis qui envoient des astronautes pour essayer de le choper le premier quand il est sur la station internationale. Mais Hob, lui, il a pigé qu'il allait être poursuivi. Donc avec les deux personnes qui étaient venues le chercher.
J'imagine que Hob, en ayant tout Internet dans sa tête, il a quand même des terabits de porno.
Mais c'est exactement ça.
Putain, surtout, je l'attendais, quoi.
Il a du porno relativement vanilla, mais il a des vieux trucs, genre du truc avec des chevaux et des...
Oh là là.
Il ferme les yeux un instant, il se repose. Ah
il est un crime à lui tout seul, c'est-à-dire qu'il a autant du pédopornographie que des décapitations de l'État islamique, quoi.
Ouais.
Et forcément, il les mélange en plus.
Oui,
mais ce que je veux dire, c'est que...
T'sais, il est en plein dîner, il peut pas s'empêcher de voir... Oh, je suis pas bien là. Non, j'ai pas envie de manger un dessert. Là.
Mais parce que là, c'est clean en fait. Enfin, je trouve que la BD est assez bien faite parce que tu sens qu'il épuise un peu tous les trucs auxquels il aurait accès. Mais alors, le contenu un peu trash, mais.
Non, ouais. Mais alors, je sais pas si c'est un truc qu'il aborde. Alors, parce que Manon, elle a lu le tome 2 aussi.
Eh oui, les gars.
Est-ce que... Consacré à Pornhub.
Est-ce qu'il y a du porn
Et vous
dedans
savez pas ce que vous ratez.
On sort pas du vaisseau parce qu'il a des trucs à faire.
T'sais, il a les yeux vitreux, barbe de 3 jours et tout. Oh, je vois tellement de choses.
Ça pas du yop.
Et du coup, non, ça parle un peu de nos porn dans le 2 en vrai.
Ouais, bah ouais, complètement, ça parle que de ça.
Non, mais vas-y, dis-nous.
Non, peu. C'est génial. Hein.
Ça parle de quoi un peu le 2? Enfin, ça continue.
Putain, je viens de le lire. Attends deux secondes, faut que je me remette les.
Bah, c'est quoi, tu
passe,
en parleras à la fin pour
peut-être que je vous en parlerai un chouï à la fin, mais effectivement, j'ai un petit détail qui, je crois, n'est présent que dans le 2 et qui est assez sympa.
Un détail sexuel ?
Tout à fait.
Tout était un rêve depuis le début.
C'est faux.
C'est l'histoire d'un clodo à Châtelet-Léal.
En attendant, Hob, il arrive à s'échapper et il s'échappe pas de n'importe comment, Manon. Comment il fait ?
Il se barre dans une capsule.
Ouais, et alors il arrive où ?
Espresso. Ouais.
Il arrive dans le détroit de Gibraltar.
Il s'est pris en 16 pour entrer dans la capsule.
On le lance comme ça et bam, d'un coup il est à Gibraltar. Voilà, non, il arrive dans le détroit du Gibraltar chez les islamiques.
Ouais, les islamistes, ouais. Donc là, t'as le califat. Alors, c'est marrant, t'as le califat de Gibraltar.
Parce qu'on nous explique que Gibraltar est devenu, depuis cette crise, un califat.
Tout à fait.
Califat, exactement. Alors, on sent qu'il a écrit cette BD, Kim Bilal. En 2015, au plus haut de la flip sur l'État islamique, parce que aujourd'hui en 2019, c'est pas. On a gagné, hein. On a gagné, bordel de merde.
Mais ce que je veux dire, c'est que c'est quand même parfois un peu limite, je trouve. Bah moi, ça m'a mis un peu mal à l'aise quand même.
Ouais.
On parle trop.
Il est très porté
sur
l'islam.
Bah c'est-à-dire que justement, il a un
ça
rapport.
Ça te gêne peut-être.
Ouais, bon, l'islam ou d'autres religions, il est un peu violent, quoi. Il est un peu, mais que ça soit sur ça. Que sur d'autres sujets, autant le dire maintenant. Non, on peut le dire, c'est un peu un, pour moi c'est vraiment la BD de ton beau-père soixantenaire un peu réac.
Bah, en même temps c'est un peu le profil de Bilal, quoi.
Ça me surprend parce que
c'est les BD genre, tu sais, comme les profs, c'est avec des cases, sauf que c'est les arabes et c'est que des trucs hyper racistes.
Non, mais sauf que par moment je me dis c'est tellement brillant et tout, il est un peu cynique, il rigole de ça, et puis d'autres moments c'est vraiment les jeunes sont tous des cons l'islam est en train d'envahir l'Europe et t'as envie de dire mais qu'est-ce que t'es complètement malade, toi.
What the fuck, man. Mais alors, je sais pas, parce que du coup, j'ai pas lu le tome 2, je sais pas si c'est un truc qu'on retrouve, mais dans le tome 1, en fait, j'ai l'impression que c'est un peu une...
Dans le tome 2, ça parle de la GPA et des lesbiennes qui veulent des gosses. Alors, on va pouvoir enfin en parler, ça.
Mais vous aurez
mais ça parle de lesbiennes dans le tome 2. Hein.
Ah ouais.
Enfin, en petit,
alors, elles veulent des gosses.
Non, ça parle pas de lesbiennes, ça parle de bisexuels.
Ah ouais, d'accord. Ah.
Mais on est sur le thème féminin.
Les tomes 3 à 5, ça porte des hommes blancs, mon gars. Eh ouais.
Mais bientôt vous mettrez des vrais visages sur les bulles de BD, puisqu'apparemment ça va sortir en série.
Ouais, alors,
ah oui.
Ouais. Petite info qu'on avait, bah, tiens, tu le sors, ça sort en série, 6 épisodes.
Pour sur France 2.
Ah non, il y a un bug.
Non, alors, c'est... on peut le dire, mais elle va tourner en anglais, la série.
Ah ouais.
C'est une coproduction européenne.
Oh no, there is a bug.
Voilà.
Alors c'est tourné en anglais avec des acteurs français uniquement des acteurs de Julie
sourd muet en plus.
Et ça, alors bon, revenons un peu à l'histoire. Ça se passe mal pour lui au califat, non? On comprend en gros que le calife il veut servir de lui.
Être calife à la place du calife,
c'est ça. Je l'aurai un jour, je l'aurai.
Et puis c'est pas cher, c'est le calife que je préfère, c'est le calife.
Allez, gros big up à Goscinny dans nos cœurs forever. Calif veut servir de lui un petit peu des connaissances qu'il a acquises pour dominer le monde. Et Enki Bilal, il n'est pas d'accord. Enki Bilal, il va essayer de se barrer.
Ouais.
Mais on a une autre histoire Enki en parallèle qui se déroule. On a l'histoire de...
La vie.
Des Richoux.
Alors, non, on a l'histoire de la fille de...
Oui,
de,
alors il y a les Richoux, la fille. En fait, ce qui se passe sur Terre, en somme.
En fait,
parce que...
Alors, Gibraltar est sur Terre. Petit, hein.
Hormis Gibraltar, j'entends. Genre, là où il y a des gens, tu sais, autres que ceux qui sont très riches, qui font beaucoup d'argent.
Tu veux commencer par les riches ou tu veux commencer par sa fille?
Ouais, je veux bien faire les riches, moi.
Allez, vas-y, fais les riches.
Bah, les riches, ils ont l'air de gros cons après le bug, parce qu'ils ont beau se payer une fortune, des possibilités que les autres ne peuvent pas s'accorder, autrement dit, l'éviter.
Ouais, alors ça, on va faire un petit
pourquoi
peu.
Mais... Alors, j'avoue, pourquoi l'éviter?
Mais pourquoi pas?
Non, mais bien sûr. Mais pourquoi?
Du coup, t'as tous les petits tracas qui arrivent un petit peu sur Terre.
Du genre lié à truc technique, et ça bug de tous les sens.
Mais
quoi.
C'est là qu'il pousse un petit peu sa vision de la SF. T'as notamment le truc avec les gens cryogénisés.
Ouais.
Avec des gens qui ont été cryogénisés, bah, en fait, qui étaient régulés par des programmes, etc. Bah, t'en as la plupart qui meurent parce que bah, ils sont plus et t'as une meuf qui interview.
Il y a une meuf un peu catho extrémiste, c'est marrant genre.
Votre fils a été cryogénisé.
Oui, mais c'est la volonté de Dieu si mon fils en est là. Enfin, c'est un peu genre Vincent Lambert, tu sais.
Ouais. Mais c'est ça que j'ai trouvé en fait assez âme. Fort, c'est-à-dire que c'est la BD, elle est pas longue, hein. C'est pas hyper long comme.
Non, ça se lit vite.
90 pages.
Ouais, mais c'est vraiment vite quoi.
Alors, c'est pas l'arabe du futur, oui, je te.
Alors, le format des cases, c'est deux cases, voire trois, pas plus, par page.
Donc, ouais.
C'est les très grosses cases, etc.
C'est pas très dense comme.
Et dans un format de BD qui est pas un format classique BD franco-belge, qui est un peu plus petit. Mm. Donc, c'est un format hyper atypique. Il a toujours fait des formats un peu atypiques comme ça.
En plus, tout est en word art.
Ouais, c'est hyper bizarre. Non, tu sais, avec les polices.
Avec des transitions.
Et dactylographie, enfin.
Ouais, les polices un peu chelous et tout. Mais du coup, en fait, j'ai trouvé que dans ce petit contenu, il mettait énormément de sa vision de la société.
Ah bah oui, ça.
Vois,
ça...
Tu vois.
Alors ça, oui.
Parce que pour lui, c'est pas futur, c'est déjà actuel.
Ouais.
Oui,
ah.
Enfin,
mais
il
non,
a quand même une
vrai.
Vision de genre le monde, enfin tous les jeunes ont besoin de Snapchat pour vivre et tout le monde a besoin d'Instagram. Et sans Instagram, les gens ont envie de se suicider.
Ouais.
Et du coup, dès qu'il n'y a plus Internet, comme par hasard, les jeunes, ils ne savent pas faire une phrase sans faute d'orthographe parce qu'on voit...
On voit les couvertures de journaux qui reviennent
non,
parce qu'ils pourront informer
si
les gens.
Une petite... Mais d'un coup, il te fait genre article garanti sans faute d'orthographe.
Écrit F-O-T-E.
C'est juste article sans faute d'orthographe, c'est écrit avec le plus de fautes possible. Où tu as envie de dire, en fait, il prend vraiment la jeune génération parce qu'avant, c'est... En tout cas, c'est vraiment
c'est
explicité
jeunes,
par un nom par un discours d'un personnage où les jeunes sont des gros cons.
Surtout les jeunes sont pendus à leur téléphone.
Non, ça peut être cynique, mais sauf qu'après au bout d'un moment, ça devient tellement souvent que tu demandes à croire. C'est vrai.
Mais c'est peut-être ça, c'est parce qu'on est tous pendus à nos téléphones. C'est la base même apparemment du début, enfin de son idée première.
Oui, mais sauf que c'est un peu vaste. Tu vois ce que je veux dire, ça fait un peu genre les vieux qui disent ah, sans votre téléphone, vous êtes tous des cons,
bah
je vais
ouais.
vous le montrer.
Mais on a l'impression de voir comment il s'appelle ce connard qui avait fait la chanson des Enfoirés où il se foutait de la gueule des jeunes là.
Alors ce connard, c'est Jean-Jacques Goldman.
Ouais,
je qu'on a fait une émission. C'est très
violent. On n'insulte pas Gigi.
Je cautionne absolument pas cette blague.
Moi, je le dis.
Mais non, mais c'est un peu ça. C'est un peu la chanson. J'ai oublié le nom.
Pour revenir rapidement à l'histoire, en parallèle, on parle des jeunes, mais en parallèle, il y a l'histoire de la fille de Hobb, qui, elle, en gros, va se faire enlever par une mafia vénitienne.
Les pirates.
Mais en gros, elle, qui fait partie des jeunes et qui voit notamment, qui retrouve son ami Amine, qui lui fait partie, en gros, d'un groupe qui s'occupe des jeunes qui ont beaucoup de mal à se passer de la technologie. Il a mauvaise Amine. Est pas mal quand même. Et du coup, t'as tout ce passage où tu comprends un peu plus que vivent les jeunes qui n'ont d'accord, qui n'ont vécu qu'à travers le numérique.
Ah
et
oui.
Et
qui savent pas se défaire de leur putain de téléphone.
Et un jour, à un moment, ils le formalisent un peu genre c'est avant 1980.
Voilà. J'allais parler de cette petite insert où en gros t'as une présentatrice qui dit voilà. On recherche en fait maintenant des personnes qui datent d'avant 80, donc qui n'ont pas eu leur cerveau abîmé par le numérique pour nous aider dans des tâches compliquées, etc. Donc bon, c'est vrai qu'il est un petit peu, il peut faire un peu vieux con sur certains trucs, mais là ce qui est intéressant, tu dis que son idée, Manon, elle vient du fait qu'il pense que les jeunes sont penchés sur leur téléphone tout le temps.
Mais pas que les jeunes finalement, parce
pas que les jeunes. Mais
l'anecdote veut que ça ne concerne pas un jeune.
Ouais, mais qui est un peu une idée à la con quand même, parce qu'il n'y a pas que ça dans la
vie. Oui, non, mais clairement.
Mais derrière, t'as un truc qui est très vrai, c'est moi je trouve que la manière dont il voit les personnes qui étaient dépendantes à ça et qui ont beaucoup de mal à s'en passer, mais de manière affective. Tu vois, parce qu'en fait, c'est des gens qui sont mal parce qu'ils n'arrivent plus à parler à autant de gens avec qui ils étaient connectés avant et qui se foutent en l'air à cause de ça. Et t'as un vrai truc qui est dit là-dessus, quoi. Sans passer sur le truc de vieux con. Hein,
c'est beau quand il en a des vraies idées graphiques, c'est-à-dire quand vraiment il te montre toute une place où les mecs sont incapables de se regarder dans les yeux. Ça, je trouve ça beau. Et quand il te dit, il y a deux jeunes qui sont suicidés à Central Park et le mot qu'elles ont laissé, c'est on peut pas vivre sans Snapchat. Et oui, Facebook, oui, Book en plus. Parce qu'il met pas le vrai nom, il met genre.
Bah, parce que probablement ça deviendra autre chose d'ici 20 ans.
C'est
ça,
oui, mais ce que t'as envie de dire, genre, non, c'est faux, personne ne meurt en disant nous ne pouvons pas vivre sans Snapchat.
Ah bah, jamais.
Et bah, tu vois, c'est sa vision.
Fait vraiment vision de vieux mec de 70 ans.
Bah, ouais, mais regarde, tu veux savoir comment il a eu l'idée de son truc? T'as pas vu l'interview? C'est con comme de la merde, hein, mais en vrai, ça rejoint le vieux qui pense que voilà, ça peut aller à ce point-là aussi loin. Il était apparemment. Donc, je raconte clairement ce que j'ai vu un peu plus tôt.
Alors là, je lui mets une meuf.
Il était en vacances.
Alors, bien, et je reçois un texto. Bon.
Mais non, c'est encore plus con. Il est en vacances. Il va se baigner. dans sa piscine, ou dans la piscine, ou je sais pas où, bref. Et il sent tout d'un coup quelque chose qui tape bizarrement contre sa cuisse.
Ouais. Il avait encore son téléphone.
Il avait laissé son téléphone dans sa poche.
C'est lui, le vieux con.
Voilà, bah, c'est non, exact, il... je te rejoins.
C'est pas
ce
un
que
vieux con, il a juste Alzheimer, le pauvre.
Il a sorti son téléphone et il raconte qu'elle l'a posé sur la margelle et qu'il est ensuite retourné à sa nage. Et il s'est dit, mais qu'est-ce qui va se passer si tout venait à disparaître? Et voilà l'idée de Bug.
Et voilà comment on écrit un livre, les enfants. Ça, c'est une bien belle leçon.
C'est... Il a oublié son téléphone dans sa poche, il allait se baigner et il s'est dit en nageant qu'ils sont cons, ces jeunes. C'est vraiment ça. Non, mais vraiment.
Ah, je déteste les jeunes. Alors, moi, j'ai vu une autre interview de lui. Il était chez le fromager, il a acheté du fromage et il s'est dit ah, les jeunes, c'est des cons. C'est des cons.
Moi, j'avais la même chose. Il était dans le couloir et il s'est dit ces jeunes sont des cons.
Des sales
cons. Juste ça.
C'est tellement des sales cons qui passent à la section prochaine. Gemma est donc aux mains d'une milice vénitienne qui veut en gros faire du chantage pour récupérer Hob, hein, parce qu'on a bien compris que dans ce monde de fous,
c'est Hob le plus fort.
Exactement, c'est lui qui a un petit peu toutes les réponses. Donc oui, tout le monde veut Hob, notamment cette milice qui détient Gemma. Du coup,
qui s'appelle pas Tub. Tout le monde voudrait ça.
Passez-moi Tub. Non, pas ça.
Oh non. Moi, ça fait rire Manon.
Je suis vraiment très très bon public, très c'est une catastrophe.
Bon, je veux la Tub. Je la veux tout de suite. Le monde entier se bat pour la Tub.
Oh là là, putain. Bon,
ça s'appelle pas caca à ce titre-là.
T'imagines, ça serait encore plus drôle.
Oui, ça serait putain.
Je veux le caca.
Je veux caca. Putain, mais on a atteint mais un nouveau fond, quoi. Saison 3, c'est parti. C'est pire qu'avant. C'est vraiment affreux.
Le caca est l'homme le plus mort.
On a plus d'auditeurs qu'avant. Tu veux qu'ils entendent ça? Pardon. Ça sera pas coupé, ça. Hein. Là, et comme ça, ils sauront à quoi s'en tenir. En attendant, du côté de Hob et Juna, donc ils sont aux mains du califat de
Juna.
On
a dit qu'il était Juna.
Quel califat?
Mais oui, Juna, pardon. C'est...
Oh, bon, en gros, Junia, c'est la doctoresse.
C'est venu la récupérer, c'est une docteure.
Voilà.
Et donc, ils sont tous les deux aux mains du califat.
Sauf que.
Ils vont réussir à s'échapper, en fait.
Mais ils ont tous les deux la tache bleue.
Ouais,
parce que Cameron. Ça s'est
propagé, en fait.
On sait pas trop d'ailleurs comment ils se sont pécho, pas pécho, on sait pas trop.
Bah,
bref.
Non, on sait pas.
Donc, on est déjà de jeu à la fin, quoi.
Oui.
Ok,
Gaspard.
Non, c'est pour ça.
Oui, je te rappelle qu'on est à la fin.
Non, mais j'ai cru. Ok, donc on vient de commencer la troisième partie et on passe déjà à la dernière page, quoi.
Non, mais parce qu'au début, ce qui est rigolo, c'est que.
Bah, si, la tache bleue, on la prend à la dernière page du tome.
Mais non, il a une tache bleue depuis le début.
Oui, mais elle.
Bah, elle l'a.
Elle a une tache très vite après qu'ils se soient rencontrés, non?
Non.
Bah, on vous a spoilé, les gars. Elle a donc une tache bleue.
Ils couchent ensemble.
Mais comme il y a 4 autres épisodes, enfin, un tome derrière, vous êtes là.
Tu confirmes, ils couchent ensemble?
Bah, je sais pas.
Personne ne sait. C'est pas dit et ça laisse,
on laisse planer le doute.
Et c'est lui qui. Parce qu'on est dans le futur. Voilà. Et parallèlement, Amine, l'ami de Gemma là, qui bossait.
Amine.
Je vais être très honnête, je sais pas sur cet épisode on a été hyper bon pour restituer l'histoire. Je pense que c'est un peu compliqué. Mais donc, Amine, pour simplifier, mm-hmm. qui était l'ami de Gemma. La fille
Amine
de
était l'amine.
Voilà, Amine était l'amine. Et qui est en fait complètement fou de Gemma. Et qui, en fait, dans le bordel qui est devenu le monde, est devenu encore plus fou. Il s'est échappé d'un hôpital où il était suite à l'enlèvement de Gemma, puisqu'il a été blessé au cours de cet enlèvement.
Et on découvre qu'il a surtout pris domicile dans l'avion écrasé en face de Gemma.
Alors, non, ça c'est extrêmement anecdotique, mais...
Ah bon, ouais, je n'ai pas retenu ça.
Non, en gros on comprend qu'il a pété un câble, qu'il veut Gemma.
Oui, mais il est
complètement fou. Il la veut, ok. Oui,
mais il finit par aller s'installer en face de chez elle.
Non, mais il n'est pas en face de chez elle, il est dans... Non... Alors c'est hyper compliqué, mais...
Alors vous avez la preuve en direct que cette émission n'est pas claire. Cette BD n'est pas claire.
Oui, elle est peut-être pas claire pour toi, mais elle est claire pour les auditeurs qui la liront. Et qui nous écouteront normalement. Bref, le mec est juste fou, il veut récupérer Gemma au même titre que tout le monde. Hop, veut retrouver sa fille. Amine veut retrouver sa fille, Gemma veut se retrouver elle-même, tout le monde veut retrouver Gemma. Voilà, c'est le grand.
Gemma est devenu le point névralgique.
Et du coup, Hob est.
Si vous votez 1, c'est un tel qui retrouvera Gemma si vous votez 2.
Et donc, Hob, il va réussir à se barrer du califat après avoir su que Amine cherchait Gemma. Donc, il a compris que t'as quelqu'un.
Il a compris les bails,
il a compris que t'as un mec un peu chou qui cherche sa fille. Donc, il arrive à se barrer avec la doctoresse, la Junia, là, je sais plus comment elle s'appelle.
Junia.
En gros, la bande dessinée se termine sur eux deux qui arrivent à s'échapper du califat et qui mettent le cap sur Paris, puisqu'ils sont désormais recherchés par tout le monde.
Tout à fait.
C'était Bug, tome 1 de Hank Hill. Alors bon,
ce qu'on a réussi à en restituer.
Ouais, c'était un petit peu compliqué, vous l'avez compris.
Ouais.
Mais très clairement, c'est un tome 1. C'est toujours un peu compliqué de résumer en fait, une histoire qui va s'épaissir sur les tomes qui suivent.
Quoi.
Mais voilà, on a essayé de vous restituer un petit peu l'univers de Hank Hill, qui est un univers de science-fiction un petit peu dark, un petit peu gris, etc. Et on n'en oublie pas l'humour. Il y a beaucoup d'humour dans cette BD. Moi, ça m'a quand même marqué. Ça vous a marqué un peu ce... Il y a quand même des trucs assez rigolos dedans. Deux, trois petits traits que je trouve assez marrants. Gaspard, je ne sais pas si toi...
Assez marrant, oui, c'est assez noir.
Est-ce que tu as ri?
Je n'ai pas rigolé non plus.
Alors, c'est de la cabine de ce que ta grand-mère met sur Facebook, en fait. C'est,
plus
toi aussi, tu trouves que les jeunes...
c'est exactement le même genre d'humour.
Ah, il leur faudrait une bonne guerre. Hein.
C'est ça. Non, après, j'ai pas lu la suite. Et si on l'offre, je serais curieux de connaître... Après,
je te le prêterai.
Je dois avouer que, mais après c'est tout à l'honneur de la BD, c'est qu'elle joue pas trop non plus sur le cliffhanger de bâtard quoi. Mm. C'est plus sur une sorte d'état des lieux et de voir comment ça se déroule à ce moment-là. Mais sinon non, c'est une bonne BD, oui. Non mais après je veux dire,
oui,
non mais je trouve
oui,
le dessin
BD,
assez
quoi.
Intéressant. Mais je peux pas m'empêcher de voir le regard de vieux con en fait. Ouais. Vraiment.
Genre
j'ai rien personnellement contre ce monsieur. Hein, mais...
Avec des images que tu postes sur Facebook pour montrer comment les jeunes ils sont bêtes quoi.
Pour moi, c'est l'équivalent en BD des mèmes de Mignon.
Oui.
Oh.
Oh, je vois très bien.
On n'est pas loin de ça.
Ouais. Les mèmes de Mignon des pages Facebook de.
De quarantenaires.
Ouais, de quarantenaires célibataires.
C'est ça.
Et toi, Manon,
tu te souviens dans les années 80 quand
voilà. On était beaucoup mieux à l'époque.
Non, moi j'ai bien aimé Bug. Vraiment. Après avoir feuilleté Nicopole étant petite, me plonger vraiment dans l'histoire alors que je ne l'ai jamais fait avec les BD de Bilal, je suis contente.
Les BD de Bilal. Tu appelles comme ça.
Mm-hmm. Tout à fait.
Donc ça,
bah, tu sais, entre Slaves, on est proches, quoi.
Ouais, forcément.
Voilà.
Vous reconnaissez entre génocidaires, pas de souci. moi, puisque vous me demandez mon avis, ça m'a plu. Ça m'a plu vraiment. Bilal, c'est. En fait, c'est un grand nom de la BD. Mais c'est aussi un grand nom de l'art des années 90 et 2000 français.
Mmh.
C'est-à-dire que le mec, enfin 80, 90, 2000, le mec, il a participé à plein de trucs. Et en fait, il a été très... J'ai l'impression qu'il est encore plus connu que ses BD pour des projets en dehors de la BD. Donc,
ouais, il fait pas du tout que ça.
Ce qu'il a fait pour
hein.
le cinéma, ce qu'il
les
a fait...
Les films qu'il a tournés, les
ouais,
photos
ce qu'il
qu'il
a fait,
fait
pour l'architecture. Il y a eu une grande exposition qu'il a fait à la Défense.
Il est exposé au Louvre aussi.
Il est exposé au Louvre, il a fait des trucs à la gare de Lyon.
C'est lui, Clodo, qui pissait dans le couloir de la Défense.
Je suis un artiste.
Ah, je savais pas.
Ouais. Ouais, ça c'est les artistes en France 2019. Hein, ça, Non, donc c'est quand même quelqu'un d'important en fait hein, pour ce milieu. La BD en tant que telle, l'histoire... J'attends de voir, j'ai lu le tome 2, je ne l'ai pas encore lu, j'avoue. Toi, Manon, tu l'as lu ?
Ouais, je l'ai lu.
Alors, il t'a
je l'ai fini
par rapport au
ce week-end même. Bah, c'est la suite, entre guillemets, plutôt logique, mais moi, je n'étais pas au courant qu'il y avait que plus de 2 tomes. Donc, en fait, quand j'ai eu la fin, je tape bon, genre un peu, genre, d'accord, ok.
Qu'est-ce que ça veut dire, à suivre ?
Et voilà, je me dis, mais putain, ça veut dire quoi ? C'est compliqué.
C'est le nom de quelqu'un ?
Non, mais je suis curieuse de voir la suite. Apparemment, il y en a 5 au total. Et le 2 est très cool et le 2 est légèrement féministe.
Pas trop, j'espère, hein, parce que j'aime pas du tout ça, moi.
Bah écoute,
oh,
je te le prêterai, tu te démerderas, ok ?
Ça lui file des boutons, Gaspard. Gaspard, ça lui file des boutons.
Non, mais ça annonce le thème de peut-être les prochains épisodes, je sais pas, tu vois, voilà.
Oui, exactement.
C'est
tu as
une
bien
possibilité.
Raison. Tu as bien raison de
Et en fait, depuis
ça.
Le début, on est dans une chaîne YouTube.
Est-ce Est-ce que vous avez peut-être des recommandations pour nos auditeurs? Hein, Gaspard, t'as un truc qui te
Oui, moi j'ai une recommandation. Alors, au moment où l'épisode sortira, ce sera peut-être plus en salle. Mais je vous recommande d'aller voir Ad Astra.
Joker?
Ah, non. Putain, on peut faire un Ad Astra? Je l'ai vu aussi.
Ah bah voilà. Ad Astra, qui est l'un des plus beaux films de l'année. Un film extraordinaire.
Attends. Putain, non, j'ai tellement envie de te poser des questions.
Alors je vois dans le regard de Manon plein de doutes. Non, c'est un film absolument extraordinaire. Je pense à ça parce que c'est un film qui se passe dans un futur proche.
Ouais.
Et qui aussi a un regard assez désabusé, mais bien plus crédible.
Et il y a des astronautes dedans.
Beaucoup moins connard dans ce que ça représente du futur. Mais, mais je trouve que c'est un film absolument immense. Et voilà, je vous le conseille. Et surtout, il y a Brad Pitt qui est non seulement l'acteur de l'année,
merci.
Et surtout
c'était l'argument premier. Hein.
La dernière grande star du cinéma hollywoodien.
Il est beau.
Et ouais, avoir le charisme de Brad Pitt, c'est pas possible. Quoi. Le mec dégouline le sexe.
Mm. Il est beau, Brad Pitt, hein, quand même. Hein. Mm.
Et toi, Manon?
Bah, je peux pas vous recommander de regarder la série puisqu'elle n'est toujours pas sortie, donc la série Bug qui va bientôt être sur nos ondes.
Elle n'est pas tournée, donc en revanche, on vous invite à aller regarder.
Non, mais je serais curieuse quand même.
N'hésitez pas à sauter par-dessus les grillages, taper les vigiles, aller voir cette série.
Faites du bruit quand vous entendez ça tourne.
Non, mais bravo,
c'est super.
Je serais curieuse de savoir comment ils vont filmer ça parce que je regardais une interview de nouveau de Bilal qui expliquait.
Avec des caméras.
Owned! You got fucking owned! You out of this fucking podcast now! Out!
Rien de vote!
Non, mais c'est la question c'était comment est-ce que le futur qu'il décrit dans ses BD, sera retranscrit à l'image? Ce qui est assez
cool. Avec des caméras?
Non, mais on disait. Vous êtes
sur des écrans!
Non, mais c'est curieux, tout à l'heure on évoquait le fait que l'archi. Bon, moi je parle archi parce que voilà, je suis architecte, c'est comme ça.
Pardon.
Non, mais que l'archi qui représente dans ce dessin est hyper actuel de notre année, de notre décennie, et, alors qu'il traite d'une autre
grosse
décennie.
Grosse architecture de BD.
Tout ce qui est futuriste n'est pas représenté dans sa BD. Comment ça sera retranscrit à l'image? Je suis curieuse de le savoir. Je vous recommande.
Bah, avec les images sur le film, quoi.
Oh ma gueule, c'est excellent. Alors, c'est pas bien.
C'est plus drôle. Ah, Manon, ou comment ça se passe?
Oh shit.
Merde. Non, merci. On va se calmer. Moi, d'or.
Bah, puis parce que personnellement.
Et toi, Rafi?
Ben, moi, je vous parle d'une BD qu'on ne fera jamais, mais qu'il faut quand même lire. C'est la BD de Babord.
Pourquoi on fera jamais Babord?
Bah, parce que c'est une BD rigolote et qu'on a quand même. C'est difficile de faire des BD rigolotes.
Bah, je me mets au défi de faire
Babord cette année juste pour lui faire plaisir. Et si Babord tu nous écoutes, sache qu'on t'aime. On t'aime plus qu'on t'aime en fait.
Ouais,
on a fait des BD rigolotes.
Et bah allez lire et vous serez peut-être prêts.
Et bah on fera Babord. Moi je dis on fera Babord et les cacahuètes.
Et bah on fera peut-être Babord effectivement. En attendant, allez lire. Ça s'appelle Babord à la rescousse des cacahuètes. Et c'est très 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 rigolo et très très con surtout. Hein. C'est du même acabit que chez nous quoi. Alors je viens de nous comparer à Babord, je déconne, il est beaucoup plus fort. La semaine prochaine, vous aurez le plaisir de nous entendre sur quoi, Gaspard? Mister.
A replay,
yes, de...
by Patricia Highsmith.
Highsmith, exactement. Et la prochaine BD, Manon, ce sera.
Sera Les culottés de Pénélope Bagieu.
Est-ce qu'on aura le plaisir de se retrouver pour Les culottés?
Tout à fait.
Une exactement. BD qui dit que
est-ce
cette fois-ci, c'est les vieux.
Est-ce que tu portes une culotte aujourd'hui, Manon?
C'est la question.
Voilà. Et vous aurez la réponse.
Ouais, tapez 1 pour dire si Manon porte une culotte et tapez 2 pour dire si elle n'en porte pas. On se retrouve la semaine prochaine.
N'hésitez pas à partager, liker, mettez les pauses bleues, etc. etc.
Et heureux.
Mettez des sales commentaires histoire qu'on vous nique vos gueules.
Exactement. C'est Manon qui viendra vous casser la gueule si vous mettez des sales commentaires. Merci à tous de nous avoir écoutés. On vous dit à la semaine prochaine. On vous fait de gros bisous.
Bisous.